Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous des élèves consacré à la gouvernance environnementale et à la démocratie participative. Le thème choisi rend hommage à Elinor Ostrom, qui est le nom de la 8e promotion des élèves ingénieurs en chef. Elinor Ostrom était une économiste et politologue américaine qui est la première femme à avoir obtenu le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux sur les communs. Dans ses travaux, Elinor Ostrom démontre que les communautés locales peuvent efficacement s'organiser pour gérer durablement des ressources communes sans recourir à la privatisation ni à l'intervention de l'État et en tenant compte de l'ensemble des usagers ou des propriétaires de ces ressources. Gouvernance environnementale et démocratie participative, un vrai sujet. Alors que la COP30 s'est achevée une nouvelle fois sur un manque d'engagement des États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter efficacement contre le changement climatique. Et dans un contexte où on assiste à un backlash écologique qui a commencé avec la sortie des États-Unis des accords de Paris, la reprise des forages d'hydrocarbures sur leur territoire, et puis en France, la loi du plomb, la suppression des zones à faible émission et le report de la fin de la commercialisation des véhicules thermiques, par exemple. Pourtant, cet été, plus de 2 millions de Français ont signé la pétition contre la loi du plomb. Et à la rentrée, un sondage Ipsos, réalisé pour le réseau Action Climat, révélait que 2 Français sur 3 pensaient que l'État doit accentuer la planification écologique, même si cela suppose un cadre plus contraignant et un coût. La solution serait-elle du côté des citoyens ? Pour en débattre, nous accueillons Madame Cécile Delattre, maire de Oberhausbergen, également vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, déléguée à la participation citoyenne et au débat public, et Bruno Koebel, DGS de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Avec vous, nous allons parler dans une première partie de l'action du Conseil de développement, notamment dans le domaine de la politique de l'eau, et dans une seconde partie de la Convention citoyenne Tram-Nord. Madame Delattre, pouvez-vous nous parler du Conseil de développement de l'Eurométropole et de votre rôle de vice-présidente en charge de la participation citoyenne et du débat public?
Oui, ben bonjour à tous, bien sûr. Déjà, en introduction, je voudrais dire que le territoire de Strasbourg, qui est capitale européenne des droits de l'homme et de la démocratie, on a déjà, je dirais, une identité sur ce sujet-là. On a des actions multiples et des instances de concertation dans Strasbourg, mais dans l'Eurométropole. En revanche, dans l'Eurométropole, l'instance participative, c'est le CODEV. Le CODEV, c'est Conseil de développement. Les intercommunalités, de plus de 50 000 habitants doivent avoir un Conseil de développement. Alors, comment il a été construit, ce Conseil de développement? Eh bien, avec des habitants de la métropole, il y a eu un appel à candidature qui a été relayé et nous avons donc une centaine de citoyens qui s'investissent. Ils ont des activités diverses et variées, des saisines de la présidente de l'Eurométropole, des autosaisines, ils se saisissent eux-mêmes des sujets qu'ils jugent intéressants. Et ils produisent un rapport annuel de ce qu'ils ont fait. Et puis, bien sûr, ils sont très actifs sur les réseaux, sur LinkedIn essentiellement. Ils produisent également une newsletter. Donc, ils sont vraiment très communicants. La relation avec les élus, eh bien, je dirais qu'elle est très dense et très intéressante parce que dès qu'ils travaillent une saisine sur une thématique, ils rencontrent en premier lieu le vice-président en charge de cette thématique. Donc, il y a un échange au début et une restitution à la fin. Donc, c'est gagnant-gagnant. Vous parliez de mon rôle. Mon rôle, c'est essentiellement m'assurer de leur indépendance dans leurs travaux, qu'ils travaillent en toute indépendance par rapport aux élus, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Et puis, ce qu'ils me demandent le plus, c'est la prise en compte de leurs préconisations dans le déploiement de nos politiques publiques.
Alors, Bruno Koebel, pouvez-vous nous préciser l'intérêt du CODEV dans la construction de l'action publique de l'Eurométropole, l'impact sur l'organisation des services et peut-être avec un focus particulier sur cette question de l'eau et des travaux qui ont été menés?
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation et bravo pour la performance consistant à venir un lendemain de soirée des ETS à 8h45. Je salue l'effort de ce matin. Effectivement, vous l'avez dit en introduction, l'intérêt de la participation citoyenne est réel dans un contexte de défiance qui est mené à l'égard de l'action publique. Et je crois que Restaurer cette confiance, ça passe aussi par une meilleure interconnaissance entre les administrations, les élus, les habitantes, les habitants, notamment dans un contexte d'enjeux très forts de transformation des territoires pour les adapter au changement climatique. Et on sait que plus des projets sont transformateurs, plus il est important de pouvoir les rendre acceptables. Et donc, ça peut donner effectivement des projets plus longs, des réflexions sur du plus long terme, mais certainement une meilleure acceptabilité des projets et une meilleure qualité aussi des projets, puisque l'intérêt du CODEV, hein, pour rentrer dans ce sujet-là particulièrement, c'est d'améliorer la qualité de nos services publics, c'est aussi améliorer la robustesse de nos politiques publiques en s'appuyant sur les avis et recommandations des citoyens qui sont engagés dans l'instance et qui se caractérisent par leur diversité, hein, puisqu'on est sur près de 100 membres avec des profils intergénérationnels, issus de 33 communes, tirés au sort après appel à candidature. Et c'est vrai qu'ils peuvent partager avec nous des expertises d'usage, des savoirs profanes, hein, qui sont très utiles pour enrichir les travaux, fondés sur nos expertises techniques de nos services, et nous faire un peu lever le nez du guidon, si je puis dire, et avoir un angle de vue différent de celui que l'on peut avoir dans les services. Alors c'est vrai que cette délibération d'installation du CODEV, elle a permis de créer et d'instaurer cette culture métropolitaine et de la faire davantage diffuser auprès des habitantes et des habitants. Et c'est vrai que les saisines assez nombreuses maintenant du Conseil de développement ont permis d'en faire un acteur partie prenante de l'amélioration de nos politiques publiques, notamment sur des sujets essentiels, hein, la sobriété énergétique, sujet essentiel, la ressource en eau, les politiques publiques relatives au vieillissement ou la dimension transfrontalière et ses impacts sur le quotidien. La cartographie qui a été élaborée par le CODEV par rapport aux propositions des habitants était également un élément extrêmement intéressant pour voir quelles sont les propositions qui peuvent faire consensus et au contraire celles qui peuvent créer de la controverse et qui nécessitent d'être accompagnées. Et tout cela génère finalement une aide précieuse à la décision et au portage des projets pour nous. Donc c'est vrai que le CODEV sur la question particulière de l'eau a poursuivi ce travail par différents ateliers. Peut-être pour rentrer dans l'organisation mise en œuvre au sein de nos services sur ces questions, le Conseil de développement est accompagné par deux agentes de l'Eurométropole, hein, qui sont membres de notre direction de la participation citoyenne qui a été créée au début de ce mandat et qui appuie en fait dans leurs travaux sur les productions du Conseil de développement et qui l'accompagne et qui assure le lien entre les membres du Conseil, la vice-présidente en charge du débat public et de la participation citoyenne qui est à ma gauche, et aussi l'ensemble des élus métropolitains et des services. Donc on voit que la qualité, le sens et l'impact des travaux du CODEV reposent sur cette mobilisation large et sur une coordination fine aussi pour alimenter les réflexions des citoyens, assurer un suivi de leurs préconisations et aussi les inscrire dans le même agenda que l'agenda poursuivi par la collectivité pour le déploiement de ces projets. C'est pour ça que ce qui est important dans le mode de fonctionnement, c'est le protocole de partenariat qui lie le Conseil de développement et l'Eurométropole et qui assure un droit de suite ou de suivi des préconisations formulées par le CODEV. Parce qu'évidemment, important de recevoir ces recommandations, ces avis, mais encore plus important de s'en servir et de montrer comment on s'en sert et quelles suites sont données à ces recommandations. Donc la collectivité concrètement s'engage à apporter une réponse pour informer le CODEV des suites concrètes qui sont données à ces préconisations et cas échéant expliquer pourquoi certaines d'entre elles n'ont pas été retenues. Évidemment, côté administration, l'enjeu principal, c'est la transversalité. Ça ne nous étonnera pas, surtout dans des très grandes structures qui peuvent fonctionner un petit peu en silo d'expertise métier. C'est de travailler en transversalité entre les services et de faire en sorte, finalement, que cette démarche-là nous aide aussi à apporter à nos équipes une vision plus transversale de l'action publique et une meilleure compréhension de l'ensemble des enjeux. Donc c'est aussi pour nous un bénéfice en termes de compréhension de la construction de l'action publique, hein, que de s'appuyer sur les travaux du CODEV pour sensibiliser notre administration au développement de la transversalité.
Prenons un exemple concret, la saisine qui a été faite par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg au CODEV pour travailler sur la politique de l'eau. Madame Delattre, en quoi consistait cette saisine ? Et quels sont les résultats de ces travaux? Et puis, quel bilan vous en tirez en tant qu'élu? Quelle a été effectivement la plus-value des travaux du CODEV?
Alors, en effet, la question est importante quand on s'adresse aux membres du Conseil du développement. La question prend tout son sens. Et la question de la présidente, c'était comment accompagner le territoire, donc l'Eurométropole, dans la prise de conscience des enjeux liés à l'eau. Donc c'était c'est l'actualité aujourd'hui, mais il faut se dire qu'on est déjà 18 mois en arrière, donc on est vraiment dans une question d'actualité. Et la deuxième question, c'était comment favoriser la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire pour préserver sa ressource en eau. Donc on voit bien qu'on emmène tout le monde. C'est pas un rapport où on va dire qui fait quoi, c'est comment ensemble on trouve des solutions. Donc ils ont produit 30 préconisations. Alors, dans ces 30, ils les ont placées en deux parties. 8 préconisations pour sensibiliser et communiquer à l'eau. Ça, c'est très important, la ressource de l'eau, comment on communique aujourd'hui. Et 22 préconisations pour mobiliser et agir. C'est très intéressant. Je vous engage vraiment à aller voir ce qu'ils sont en capacité de faire comme document. La démarche a été primée par le prix de la participation 2025. C'est l'association Décider Ensemble. Tous les ans, elle met en valeur des démarches participatives innovantes et ils ont reçu donc un prix le 28 novembre dernier au Palais du Luxembourg, donc au Sénat. Alors les bénéfices que l'on en ressort, Bruno Quebel en a déjà, vous en a déjà donné des pistes en tout cas. Moi, je dirais que c'est un processus de gouvernance participative qui sécurise les projets avec les élus. Parce que tout ce que vous avez travaillé en amont vous permet ensuite de ne pas rencontrer ces problématiques puisqu'on les a déjà réglées avec les habitants, avec les citoyens en amont. La démarche, elle offre aussi un cadre nouveau de cohésion intercommunale. C'est une démarche nouvelle, avec des nouvelles façons de travailler ensemble, avec un cadre renouvelé et un dialogue entre élus et administrés. Parce qu'on voit bien que c'est un triptyque élus-agents, donc les agents de la collectivité, et les bénévoles. C'est ensemble qu'on arrive, les membres bénévoles du CODEF, c'est ensemble qu'on arrive à avancer. Les limites de l'exercice, si je peux me permettre, les projets et les choix issus des feuilles de route de campagne électorale pour lesquels nous avons été élus, ne peuvent pas être négociés. Alors, ça serait un préalable.
Bruno Quebel, quel a été l'intérêt de cette démarche, mais aussi ses limites par rapport à cette question environnementale de fond, et comment avez-vous perçu votre évolution comme cadre dirigeant dans l'organisation, l'administration de vos services?
C'est vrai que la question de l'eau, elle est vraiment essentielle, hein, vous l'avez dit. On a beaucoup parlé d'énergie, hein, d'électricité, de gaz ces dernières années avec la crise énergétique qu'on a traversée. Beaucoup moins de l'eau, qui est une ressource essentielle, hein, qui pose des questions de disponibilité, de qualité, qui pose aussi des questions de risque, hein, de gestion de risque avec la compétence GEMAPI, la lutte contre les inondations, aussi des questions d'infiltration d'eau de pluie. Donc on est sur un sujet qui est complexe et sur un sujet qui en plus ne peut pas se décomposer par territoire. On est sur des questions de bassin versant qui impliquent effectivement qu'on puisse fonctionner au-delà d'un simple territoire, même si c'est un territoire métropolitain. Et donc cette dimension-là me semble également très, très importante. Donc c'est vrai que l'intérêt en fait de la démarche menée via le CODEF, c'est une construction plus solide, hein, de la décision publique que j'ai pu évoquer un petit peu tout à l'heure, avec une volonté aussi sur un sujet aussi important que celui de l'eau, de transparence, de dialogue, et de réussir à construire une décision publique qui soit la plus équilibrée possible. On est aussi sur des sujets sur lesquels la pédagogie est extrêmement importante. Les enjeux de l'eau sont relativement mal connus, et une démarche telle que celle qui a été menée avec le CODEF nous permet aussi de renforcer la connaissance des habitantes et des habitants sur ce sujet qui est un sujet totalement essentiel et même vital quand on parle de l'eau, évidemment. Cette démarche participative, elle permet de mieux mettre en œuvre des préconisations puisque le regard non expert, hein, des habitants apporte une vraie plus-value par les questions qui sont posées, qui sont des questions de terrain, des questions d'usage, et c'est très important de faire en sorte que l'action publique réponde de la meilleure façon aux besoins d'usage. Et donc c'est vrai que le fait de faire remonter ces problématiques de terrain propre à un usager ou à un territoire est extrêmement utile à la construction des projets et des décisions. Sur l'impact que ça peut avoir dans notre administration et ce que ça a permis de faire aussi bouger comme ligne, c'est que évidemment, quand on est encadrant et au sein d'une administration qui travaille avec un CODEV, on a la responsabilité de pouvoir, je l'ai dit, donner des suites, hein, expliquer quels sont les suivis, les retours aux 30 préconisations de l'instance, dont 8 sur le seul volet sensibilisation et communication, hein, qu'a évoqué Cécile Delattre. Et c'est vrai que ce qu'on a pu apprécier dans la manière dont c'est venu nourrir en fait, nos réflexions au sein de l'administration, c'est la force de proposition qu'a représenté ce CODEV, qui a préconisé notamment d'établir un schéma directeur de l'eau à partir de différents schémas directeurs ou d'autres documents cadres, hein, qui existaient, ce qui a contribué, et ça c'était un effet direct, à la création d'une nouvelle direction, la direction de l'eau et des risques environnementaux, à partir des deux entités qui existaient préalablement, eau et assainissement d'un côté, qui s'occupait du petit cycle de l'eau, et risques environnementaux qui traitaient du grand cycle. Et nous paraissait, au contraire, à la lecture et à l'aune de cette démarche, pertinent de réorganiser l'administration pour répondre de manière systémique et stratégique à cette question fondamentale de l'eau. Dans le cadre du bilan de fonctionnement du CODEV et l'élaboration des recommandations à destination de l'exécutif et du futur exécutif, hein, le CODEV a rencontré différents services avec lesquels il a travaillé. Donc c'est vrai que les agents de notre direction compétente ont partagé de nombreux bénéfices de travail avec le CODEV, hein, que ce soit la prise de recul que ce regard citoyen extérieur permet d'apporter sur nos dossiers. Ça nous challenge, encore une fois, ça nous fait sortir des silos qui peuvent exister dans l'administration. Et effectivement, les préconisations peuvent permettre d'appuyer des démarches portées par la collectivité et légitimer des points de vue aussi auprès de partenaires extérieurs. On n'est pas les seuls à intervenir sur l'eau. Et je trouve qu'apporter ou nourrir les réflexions partenariales sur la base des productions du CODEV est extrêmement intéressant. L'enjeu de transversalité, il est très présent aussi parce que la politique de l'eau, c'est une politique éminemment transversale et qui est à la confluence, hein, de beaucoup d'autres politiques publiques. Et donc pour nous, l'enjeu, c'était aussi de faire en sorte que cette démarche permette de sensibiliser l'ensemble de l'administration à ces enjeux pour que l'eau soit intégrée dans l'ensemble des réflexions relatives aux politiques publiques et pas segmentée et encore moins en faire un sujet d'expert. Alors quelques limites tout de même en termes de retour d'expérience, c'est que les citoyens ne sont pas des experts et c'est très bien, ils sont les premiers d'ailleurs à le dire, hein. Ils n'ont pas vocation à se substituer au travail des services techniques et je trouve que c'est très bien aussi que ces rôles-là soient bien précisés au départ. Certains sujets, on en parlera tout à l'heure avec les mobilités, sont des sujets encore plus complexes et qui peuvent être difficilement appréhendés pour justement parvenir à cette vision complexe. Donc il est important de nourrir leur travail à la fois d'expertise technique, d'éléments d'explication, de compréhension des enjeux pour leur permettre de faire ce travail. Alors tout cela, ça demande un investissement en temps, évidemment de la part des services, hein. Encore une fois, c'est un très bon investissement, mais il est tout de même assez lourd en temps. Pour faire en sorte que les rencontres avec les membres du CODEV puissent intervenir, pour que le droit de suite également puisse être assuré, mais aussi pour traduire et vulgariser certains sujets techniques, hein, qui sont quand même des sujets extrêmement pointus, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, pour qu'ils soient compréhensibles tout simplement aux yeux des citoyens. Et là, clairement, quand ça fonctionne bien, on a un réel retour sur investissement à travers tous les avantages que j'indiquais tout à l'heure. Le temps de l'administration peut parfois sembler trop long pour les citoyens. Et donc ça, c'est intéressant aussi dans la meilleure compréhension réciproque, systématiquement à l'issue d'une démarche de participation citoyenne, quelle qu'elle soit, y compris dans le cadre du CODEV. Les citoyens nous disent « C'est quand même compliqué l'action publique. C'est pas facile ce que vous faites. Hein. On comprend mieux maintenant pourquoi ça prend autant de temps. » Et ça, je trouve que dans l'apprentissage réciproque et dans la meilleure compréhension des enjeux, quand on a 100 citoyens qui participent à ces réflexions-là et qui repartent avec cette nouvelle vision de l'action publique et de sa complexité et de sa réalité, finalement, ça en fait aussi des ambassadeurs qui permettent de restaurer un petit peu de confiance. Vous me direz, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais à chaque fois, à force de goutte d'eau, on arrive quand même à faire évoluer des tendances et des représentations. Et enfin, le dernier élément, c'est le besoin de travailler avec d'autres partenaires sur un sujet tel que l'eau. Et donc là, pour le coup, nous servir des préconisations du CODEV, les relayer aux bons partenaires ou aux élus qui peuvent porter ces thématiques devant nos partenaires sur les autres territoires ou nos partenaires spécialisés dans ce sujet comme le SDEA par exemple, hein, qui intervient sur ces questions.